La première fois que j'ai entendu parler de Belle et le dragon, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une histoire du genre « La Belle et la Bête ». Eh bien, pas du tout, ça n'a rien à voir, parce que Belle était une idole adorée par les Babyloniens, et avec le dragon, il constitue une légende farfelue qui fait partie d'un texte apocryphe et qui a été rajouté au livre du prophète Daniel. Dans ce conte étrange, écrit par un écrivain très médiocre et pas inspiré du tout, Daniel fait périr un dragon adoré par les Babyloniens. En proie au ressentiment du peuple, il est jeté dans une fosse à lions où un autre prophète du nom de Habacuc est merveilleusement transporté à travers les airs par un ange du pays de Juda à Babylone pour apporter à Daniel de la nourriture. Finalement, ce dernier sort sain et sauf de la fosse aux lions où ses ennemis sont précipités. Je vous avais bien dit que cette histoire était très minable. Mais qui est cet Habacuc? Son nom signifie « embrasser » ou plus probablement « être embrassé » sous-entendu par Dieu, dont l'équivalent dans le Nouveau Testament est rendu par « Théophile », ce qui veut dire « aimé de Dieu ». À part ça, nous ne possédons aucun renseignement historique certain sur cet homme. Mais, selon une tradition des rabbins, et très probablement, il serait de la tribu de Lévi et son père s'appellerait Josué. De plus, le post-scriptum à la fin du livre, pour le chef des musiciens, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes, nous montre que Habacuc était un Lévite qui connaissait la musique. Ce qu'on sait avec certitude, par contre, est que cet homme a écrit un livre dans lequel il se donne le titre de Nabi, c'est-à-dire prophète. De tous ceux qui ont exercé ce ministère, seulement trois, Habacuc, Agé et Zacharie, sont appelés prophètes dès les premières lignes d'introduction de leur livre. Le titre du livre d'Habacuc n'indique pas à quelle époque il a prophétisé. La mention des Chaldéens, un autre nom pour les Babyloniens, et l'annonce d'une invasion de Juda par ce peuple permettent cependant de déterminer à peu près quand se situe son ministère. Mais pour cela, il nous faut faire un peu d'histoire. Le premier empire babylonien du troisième millénaire avant notre ère avait Nimrod pour tyran et il voulait dominer le monde du haut de la tour de Babel. Bien plus tard, les Chaldéens, apparentés aux Araméens, se sont infiltrés en Babylonie et ce sont des chefs politiques et militaires araméens qui ont ressuscité un nouvel empire babylonien. Babylone resta pendant longtemps assujetti à l'empire assyrien et malgré plusieurs tentatives, n'avait pas réussi à se libérer durablement de son joug. Mais vers l'an 630 avant Jésus-Christ, profitant de l'affaiblissement de l'empire assyrien, le royaume de Babylone regagna son indépendance. Nabopolassar, qui le dirigeait alors, fonda ce qui deviendra l'empire néo-babylonien. Il obtient la main de la fille du roi des Mèdes pour son fils Nabucodonosor. Allié avec eux, il précipita le déclin de l'Assyrie. À partir de l'an 618, c'est d'abord la ville d'Assur qui est défaite et tombe devant les armées de Nabopolassar. En 612 avant Jésus-Christ, Mèdes et Babyloniens avec les Scythes s'emparent de Ninive comme le prophète Nahum l'explique. Suite à cette victoire, Nabopolassar devient le roi incontesté de la Babylonie et le suzerain de la Syrie et de la Palestine. Cet essor rapide du nouveau royaume babylonien inquiète l'Égypte, l'autre grande puissance de l'époque. Soucieuse de préserver sa zone d'influence sur la Palestine en particulier, elle préférerait voir subsister un royaume assyrien suffisamment fort pour contrecarrer les visées hégémoniques des Babyloniens. Le pharaon Psamétique prête donc assistance aux Assyriens, ce qui ralentit quelque peu la disparition totale et complète de l'Assyrie. Son successeur Necho règne à partir de 610. L'année suivante, Il se met à son tour en campagne pour voler au secours de ce qui reste de la Syrie et affronter les armées babyloniennes sur l'Euphrate. Sur sa route, il rencontre les armées de Josias, roi de Juda, qui s'est mise en tête de lui barrer le passage. L'armée israélite est défaite et Josias meurt sur le champ de bataille. Son fils Joachaz lui succède sur le trône de Juda. La bataille que se livrent ensuite les armées égyptiennes et babyloniennes ne débouche sur aucune issue décisive. Elles font match nul en somme. À leur retour de cette campagne, les Égyptiens repassent par Jérusalem. Nécho dépose Joachaz, qu'il déportera en Égypte, et installe à sa place comme roi de Juda un autre fils de Josias, Jéhoiakim, dont la politique sera pro-égyptienne. L'empire assyrien ayant totalement disparu en l'an 606 avant notre ère, l'année suivante, les armées égyptiennes affrontent de nouveau les Babyloniens à Carchemish sur l'Euphrate. Nabopolassar tombe gravement malade et son fils Nabucodonosor prend le commandement militaire. Il remporte une victoire éclatante et décisive sur les forces égyptiennes qui seront dorénavant trop affaiblies pour pouvoir lui disputer la suprématie. Dans les semaines qui suivent et suite à la mort de son père, Nabucodonosor devient le roi de Babylone et le nouveau patron du Moyen-Orient et aussi de la Palestine. À l'époque où Habakkuk exerce son ministère prophétique, les Chaldéens ne se sont pas encore manifestés comme de grands conquérants marchant dans les traces des Assyriens, leurs prédécesseurs. On ne sait pas encore qu'ils se montreront violents contre toutes les nations. L'Éternel révèle alors à son prophète qu'il va les utiliser pour châtier son peuple. Il dit « Regardez parmi les nations et voyez, soyez étonnés, stupéfaits, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez point si on vous la racontait. Car je vais faire lever les Chaldéens, peuple rude et impétueux, qui s'avancent au large sur la terre pour s'emparer de demeures qui ne sont point à lui. » Fin de citation. L'étonnant dans cette prédiction n'est pas tant le fait que l'Éternel va utiliser un peuple païen et méchant pour accomplir son jugement, puisqu'il l'a déjà fait avec les Assyriens. Mais que Babylone, qui n'est qu'une province vassale de la Syrie, va monter en puissance et un jour attaquer Juda. Cette donnée historique permet de situer la prophétie d'Habakkuk sous la botte du puissant souverain assyrien Assurbanipal, qui a envahi l'Égypte deux fois de suite pendant son règne. D'autre part, Habakkuk se plaint de l'injustice sociale, de l'oppression et des actes de violence en Juda, et pourtant le temple fonctionne à plein régime puisqu'on y chante des hymnes à la gloire de l'Éternel. Ce sont les dernières années du règne de Manassé, roi de Juda, qui paraissent cadrer le mieux avec le contenu du livre d'Habakkuk. En effet, dans l'un des livres historiques, il est raconté que le très mauvais roi Manassé, emmené captif à Babylone pour y expier un long règne chargé de crimes de toutes sortes, se repentit profondément et put revenir dans son royaume où il se mit en devoir de rétablir le culte de l'Éternel auquel il avait substitué jadis celui des faux dieux. Soit dit en passant, cet exil de Manassé en Assyrie, mise en doute par les commentateurs d'Obédience libérale, a été partiellement confirmée par des découvertes archéologiques. En effet, une inscription mentionne le roi Minasi de Yaouda, c'est-à-dire Manassé de Juda, comme faisant partie des tributaires du souverain assyrien. Dès son retour en Juda, Manassé repentant entreprit une réforme religieuse pendant les dernières années de son règne. Elle fut probablement bien peu profonde puisque le second livre des rois n'en parle pas. Cependant, le sanctuaire fut entièrement purifié de ses idoles et rendu au culte de l'Éternel. C'est ce qui expliquerait à la fois, d'une part, le détail musical mentionné par Habakkuk à la fin de son livre et qui montre que le culte était célébré dans le temple comme jadis, et d'autre part la description de l'état de déchéance morale du peuple, description de laquelle on peut conclure que lorsque Manassé est revenu à de meilleurs sentiments envers l'Éternel, c'était trop tard. La gangrène morale de la nation était trop avancée et la réformation trop anémique pour changer quoi que ce soit. Dès la première phrase de la prophétie, Habacuc demande à Dieu « Jusqu'à quand ?» avant que tu interviennes pour faire cesser la violence au sein du peuple. Suite à cette question, Dieu annonce la fin politique de Juda aux mains des Chaldéens et répond « En votre temps ». Il est logique de supposer qu'Habacuc s'adressait surtout à la jeune génération. Or, un certain nombre de ses auditeurs, 60 ans plus tard, ont pu voir s'accomplir en leur temps les événements prédits par le prophète. Si Habacuc prophétise 2 ans avant la mort de Manassé, par exemple, beaucoup de ceux qui l'écoutèrent étaient encore en vie quand Jérusalem fut investie par les armées babyloniennes. Le livre d'Habacuc rappelle, en outre, les discours prophétiques au temps de Manassé dont les prédictions annonçaient des événements si terribles que les oreilles de ceux qui les entendraient allaient en tinter. Je lis un passage. « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je fais venir sur Jérusalem et Juda un mal tel que quiconque l'entendra, les deux oreilles lui tinteront. » Les événements annoncés par Habacuc étaient bien de nature à produire un semblable effet. Le prophète lui-même l'a ressenti, car vers la fin de sa prophétie, il dit « J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé, mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent, je reste là, tremblant. » Enfin, le caractère archaïque très prononcé du livre d'Habacuc, l'originalité de son style et de sa pensée, rappelle l'âge d'or de la littérature hébraïque. En lisant ce prophète, on éprouve la nette impression que par son langage, il était très proche d'Ésaïe, le plus grand écrivain de la plus brillante époque littéraire d'Israël. Comme je l'ai dit, ce sont donc les dernières années du règne de Manassé qui accommodent le mieux la prophétie d'Habacuc. Il aurait alors immédiatement suivi le prophète Nahum, ce qui est aussi la place de son livre dans le canon hébreu et grec. Habacuc revêtait une importance particulière pour certaines communautés juives comme celle de Qumran, car avec les fameux manuscrits de la Mer Morte, on a aussi trouvé un commentaire des 2 premiers chapitres de la prophétie d'Habacuc. Il possédait aussi le 3e chapitre, mais n'ont pas trouvé utile de le commenter. Il faut dire que cet ouvrage est tout à fait unique parmi les livres prophétiques parce que, au lieu de simplement déclarer le message divin, il s'ouvre sur un dialogue entre l'Éternel et son prophète qui est perplexe. Dans une prière qui est en réalité un psaume de supplication, Habacuc demande pourquoi Dieu n'intervient pas contre l'injustice sociale qui règne dans le royaume de Juda. L'Éternel répond alors qu'il va faire venir les Chaldéens, un peuple de conquérants féroces, et que cette catastrophe ne va pas tarder. Habacuc en est choqué, mais il ne se laisse pas démonter, et tout comme Abraham, qui avait parlementé avec l'Éternel au sujet de Sodome et Gomorre, il reprend courageusement la parole pour dire qu'il ne comprend pas comment Dieu peut permettre une chose pareille. Habacuc n'arrive pas à concilier ce qu'il sait du caractère de Dieu, qui pardonne et tient ses promesses, avec son intention de rayer Juda de la carte du monde. L'Éternel lui répond alors que le jour viendra où la domination babylonienne connaîtra sa fin. Le thème de la chute de Babylone est développé sous la forme de 5 petits poèmes satiriques qui dénoncent les crimes des conquérants babyloniens, leurs actes de violence, le pillage, les traitements dégradants infligés au peuple vaincu et leur idolâtrie grossière. En attendant cet accomplissement, Dieu veut que son prophète lui fasse confiance et promet la vie à tous ceux qui lui demeurent fidèles. Dans le troisième et dernier chapitre du livre, le prophète s'adresse à l'Éternel sous la forme d'un cantique dans lequel il exprime sa crainte devant les événements futurs. Cependant, il concentre surtout son attention sur l'espérance de la venue de l'Éternel et de la délivrance du peuple élu qui suivra son châtiment. Au sein même de sa détresse, Habacuc exprime sa soumission au plan de Dieu et sa pleine confiance en lui. Comme pour les psaumes, le livre d'Habacuc est riche d'enseignements sur la vraie piété, car on pénètre dans l'intimité de la vie du prophète. Il fait preuve d'une grande liberté dans ses dialogues avec Dieu et exprime sa foi vivante dans une relation où il ne craint pas de lui dire tout ce qu'il a sur le cœur. On est bien loin des rites creux et de la liturgie vide qui sont dépourvus de vie et qui le plus souvent ne sont rien d'autre que de petits actes minables destinés à se donner bonne conscience. Par contraste, Habacuc nous donne une leçon exemplaire sur la façon de se comporter avec Dieu. En effet, comparé à Job qui, pour se justifier, est allé un peu trop loin dans ses propos sur l'Éternel, et comparé à Jérémie qui a laissé ses sentiments prendre le dessus et s'est apitoyé sur son sort, Habacuc reste droit et juste dans son attitude. Il exprime sans complexe ce qui lui pèse, ce qu'il ne comprend pas ou ce qui lui paraît inacceptable, mais il demeure toujours confiant et soumis à son Dieu. La manière dont il épanche son cœur, puis attend patiemment la réponse de l'Éternel, est admirable. Pour Habacuc, la foi n'est pas un échappatoire, mais elle lui permet de garder la tête froide et les pieds sur terre, proche des réalités de ce monde auquel il se sent pleinement solidaire. Il ne se contente pas simplement d'une espérance de justice dans l'au-delà, mais il est préoccupé par la corruption et l'injustice de la société dans laquelle il vit. C'est d'ailleurs ce qui le pousse à interpeller son Dieu pour lui demander ce qu'il attend pour intervenir. Et quand l'Éternel lui répond en annonçant la venue d'un règne de terreur et d'injustice, Habacuc revient à la charge et exprime à quel point ce que Dieu veut faire lui paraît contraire à ce qu'il sait de son caractère et de sa loi. Habacuc ne refuse pas de voir la réalité en face, et c'est ce qui montre que sa foi n'est pas faite de crédulité naïve ou d'illusion. Habacuc est un exemple à suivre parce qu'il considère froidement les faits qui lui paraissent contraires à ce qu'il croit, mais persévère dans sa confiance en Dieu car il le connaît. L'Éternel ne répond pas à toutes les questions de son prophète. Il ne justifie pas la ligne d'action qu'il a prise et ne dit pas pourquoi il va utiliser les Chaldéens plutôt qu'un autre moyen pour punir son peuple. Pourtant, il révèle à son prophète le but de son plan et cette réponse permet à Habacuc de continuer à espérer, surtout que ce dernier se nourrit aussi du souvenir des actes bienveillants de l'Éternel lors de l'Exode. Habacuc compte donc sur une action similaire de Dieu en faveur de son peuple. C'est ainsi que malgré les sombres nuages qu'il voit s'amonceler dans son ciel, Habacuc peut continuer le pèlerinage de la foi en toute sérénité. Le cœur de l'enseignement de ce livre est certainement cet appel que l'Éternel adresse à son prophète et à tout homme à tenir bon dans l'adversité et à lui rester fidèlement attaché en toute confiance. Le mal qui m'afflige et celui dont je suis témoin en ce bas monde suscite en moi bien des pourquoi, auxquels je n'ai pas de réponse entièrement satisfaisante. À l'exemple d'Habacuc, l'enseignement de la parole de Dieu sur la nature de Dieu, sur son œuvre de salut et sur l'espérance qui nous est réservée dans les cieux doit m'aider à persévérer dans la foi et dans ma fidélité à Dieu. Habacuc nous donne aussi une leçon d'histoire. Des empires tyranniques apparaissent dans le monde et exercent leur domination despotique pendant un temps. Mais Dieu ne les laisse pas continuer leur oppression tyrannique indéfiniment. Et il arrive un moment où ils tirent le rideau et mettent un terme à leur existence. C'est ce qui est arrivé à l'Empire assyrien. Dieu exerce en ce monde des jugements contre les oppresseurs, même si ceux-ci seront toujours partiels et provisoires, jusqu'au jour où l'Éternel manifestera pleinement sa justice en la personne du Messie qui viendra régner sur cette terre pendant 1000 ans. Il est réconfortant de savoir que malgré les apparences, Dieu agit dans l'histoire et qu'il ne laisse pas le dernier mot au pouvoir tyrannique, même si son intervention se fait parfois longuement attendre et si parfois l'injustice domine et demeure impunie. Aujourd'hui, il existe d'innombrables scandales où des brutes épaisses oppriment les plus faibles ou terrorisent des populations sans défense, en toute impunité, et pour le moment, Dieu laisse faire. Comment vais-je réagir? Je peux dire d'un ton méprisant que Dieu n'existe pas ou qu'il se moque bien de nous ou encore lever le poing au ciel contre lui. C'est ainsi que se comportent la plupart des gens. Mais le croyant est appelé à lui faire confiance et à s'attendre à lui, quelles que soient les circonstances de sa vie.